RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur et Antoine de Vulpilière, associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Thierry Herbreteau, PDG de Peters. Bonjour Thierry. Alors racontez-nous, là, vous êtes né en 1962 à Cholet. Alors Cholet, on ne sait pas toujours où c'est où exactement Cholet alors.
C'est la sous-préfecture du Maine-et-Loire, mais c'est surtout connu parce que ça a été la capitale du mouchoir.
Exactement, et c'est aussi le siège d'une société merveilleuse, une ETI qui s'appelle le groupe Grimaud. Vous avez une double formation avec l'ISC, avec un MBA également à New York, et vous avez passé au total 4 années au Japon.
Oui, j'ai effectivement, entre ma formation d'école de commerce et l'ISG et mon MBA aux États-Unis, j'ai passé 5 ans même au Japon. J'ai été VC d'entreprise au départ à l'ambassade et j'ai continué en tant que consultant pour faciliter l'accès du marché japonais à l'époque, qui était un marché qui faisait un peu rêver tout le monde.
Et vous aimez ce pays parce qu'il est,
j'ai adoré,
il est fascinant.
Ce pays. J'ai adoré ce pays. Le mélange de la culture et de l'économie, mais la culture a été un moment de ma vie passionnante.
Alors ensuite, vous avez débuté votre carrière dans une entreprise américaine. Vous étiez au pays de la dopamine et du Prozac.
Alors, j'ai débuté chez Eli Lilly, qui est un laboratoire américain indépendant, qui est très connu pour le Prozac et également l'insuline. Mais j'ai débuté, moi, dans la partie du dispositif médical, qui est moins connu. On connaît très bien les médicaments, mais finalement, tout ce qui n'est pas des médicaments, c'est dispositif médical. Alors, dispositif médical, c'est très large. C'est ce qu'on connaît du gant jusqu'au stent, jusqu'au pacemaker, jusqu'au scanner. Et le dispositif médical, c'est là où j'ai démarré. Parce que j'ai toujours pensé que c'est un domaine qui est très technologique, où le médecin est acteur directement et que ça a un impact majeur sur la santé.
Ensuite, retour en France dans les années 90. Vous avez passé, Thierry, toute votre carrière dans la santé ?
Tout le temps. Tout le temps dans le dispositif médical.
Et vous avez rejoint Peters Surgical en 2018. Un mot sur l'historique de cette ETI. Elle a été créée en 1926.
Absolument. Créée en 1926 par Monsieur Peters, qui était plus un ingénieur de production et qui a été le fondateur d'une entreprise française unique, puisque finalement, dans la dispositif médical, il y a très peu d'ETI. Vous donner un ordre d'idée, le dispositif médical, c'est environ 1500 entreprises en France, 93% c'est des TPE-PME, très peu d'ETI, une dizaine, et quelques grands groupes, filiales de grands groupes.
Et aujourd'hui, donc, ça représente 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires autour de 75 millions
tout à fait,
d'euros, Thierry.
Tout à fait.
Donc les produits, les services, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, tout ce qui est dispositif médical implantable en chirurgie, suture chirurgicale, colle chirurgicale, implant de renfort, instrument de celluloscopie, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est traitement chirurgical, cardiovasculaire et digestif. On est très connu parce qu'en fait, on a collaboré pendant 10 ans avec le professeur Carpentier,
ah oui,
qui est le père du cœur artificiel. Et d'ailleurs, pour le cœur artificiel, on a développé des sutures chirurgicales cardiaques très spécifiques.
Et toute la production est en France ?
Alors,
Cocorico,
la
ou pas ?
Très grande partie de la production est en France. On a en France la production qui est la plus forte valeur ajoutée, les clips hémostatiques et la colle chirurgicale qui est très compliquée à maîtriser. On a une usine de production à Domalin, près de Vitré. Et on a aussi désormais depuis un an une production en Allemagne. On a racheté une société en Allemagne l'année dernière. Et on a aussi historiquement une production à Bangkok, à New Delhi.
Le capital de l'entreprise, du groupe ?
On est sous les BO, on est détenu par Euraseo PME depuis 2018. Et bien sûr, en partie minoritaire dirigeant.
Bien sûr, il ne faut pas les oublier, il ne faut jamais
quand même
les oublier. Arnaud ?
Les bons fonds n'oublient jamais.
Absolument, exactement.
Dirigeants. ETI International, en plus, dans le domaine du médical, vous êtes un spécialiste de la gestion de crise, en fait, depuis 3 ans.
Oui, on peut le dire. On peut le dire. Je crois que depuis 2 ans, on a vécu au rythme des différentes crises dans le monde entier. Hein, du premier confinement qui a été un choc, une sidération, où on a été d'abord dans la position de continuer à vouloir fournir nos produits aux hôpitaux, puisqu'on est dans le bloc opératoire. Aucune de nos usines a fermé dans le monde. C'était pour nous une vraie fierté, beaucoup de solidarité. Et depuis, on connaît au rythme des programmations, des déprogrammations, des reprogrammations, des procédures chirurgicales, un mouvement yo-yo. Fort heureusement, je touche du bois, je crois qu'on a le Covid derrière nous, on peut commencer à le dire.
Souhaitons-le en tout cas.
On le souhaite en tout cas.
Arnaud ?
Très très fort. Vous êtes très attaché aux enjeux de transition écologique. Comment vous le déclinez justement ?
Alors, transition écologique, pour nous, c'est plusieurs choses très concrètes. C'est d'abord notre empreinte carbone. On a de l'industrie, on a de la supply chain. Donc, on est depuis très longtemps engagé dans la réduction de notre empreinte carbone et dans l'externalisation de logistique pour la rendre la plus lean possible. C'est une chose. On a un deuxième grand sujet qui est l'économie circulaire et la diminution du plastique dans la production de dispositifs médicaux, qui est à la base quand même un matériau très utilisé. Et là, c'est en face de nous un vrai défi parce qu'il faut reprendre le sujet de la recherche et développement jusqu'à la production.
Donc, et si vous aviez une baguette magique, alors quel est le produit aujourd'hui qu'il faudrait inventer pour...
Alors on a un produit qui pour nous est le fer de lance de notre innovation, qui est une colle biologique biosourcée, donc totalement issue du végétal, non plus du tout issue du pétrole. Et ça, c'est pour nous, en termes d'innovation, mais aussi d'impact environnemental, le produit qu'il faut.
Antoine, demandez une caisse là, Thierry. Hein.
Bonjour. Alors, ma première question, elle était aussi sur les aspects RSE et environnementaux, mais elle était divisée en deux, donc je vais en poser que la moitié. J'ai vu que dans vos lectures récentes, il y avait Le Monde sans fin de la BD de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. C'est un ouvrage qui est assez édifiant sur les futurs énergétiques et climatiques. Alors, vous avez répondu sur, effectivement, ce que vous faites chez Peter Surgical sur ce sujet-là. Ma question, elle portera plutôt sur vos relations avec vos investisseurs. Cet ouvrage, il explique notamment que la roadmap, on va dire, la plus rentable n'est pas toujours la plus soutenable. Ce n'est pas toujours exactement le même chemin. Comment vous travaillez avec votre fonds, vos investisseurs là-dessus?
Alors, d'abord, Azeo est un des fonds, je pense, qui est pionnier dans tout ce qui est engagement RSE. Donc, on a une vraie culture de RSE au sens où on ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait parce qu'on a des vraies convictions que l'on suit, on a des mesures de progrès. Et je pense qu'on ne le fait pas pour être connu, on le fait parce qu'on pense que c'est, de façon durable, la meilleure façon d'opérer. Évidemment, il y a des moments où les résultats ne sont pas immédiats, mais je pense que c'est un engagement où là, on est très soutenu par l'actionnaire parce qu'il y a une vraie méthode. Il y a des labels, il y a une certification, il y a un travail long sur lequel il faut s'investir et après, on commence à avoir des résultats.
Arnaud, Euraseo, oui, mais pas que.
Mais pas que. Généo également. Mais oui. Simplement pour dire que je pense que l'impact d'une bonne politique ESG, elle se voit peut-être sur les coûts, mais elle se voit dans les coefficients de sortie.
Bien sûr, il y a ça. Et puis, ça se... vous savez aussi, on parlait tout à l'heure de l'ETI. Il y a un vrai sujet de marque employeur, ETI. Mmh. Autant on connaît très bien historiquement en France le grand groupe, la start-up, l'ETI, elle est un peu entre les deux. On connaît même mieux la PME.
D'où l'intérêt de ETI Radio.
D'où l'importance des radios, absolument, merci. Et mais également de valeurs d'engagement social. On a engagé récemment beaucoup de jeunes diplômés alternants d'engagements environnementaux. Il faut être très concret. C'est là qu'on attire des ingénieurs. Donc je pense aussi que ça participe pleinement à nos valeurs, que ça donne du sens, en plus du domaine de la santé dans lequel on est. Et je crois que ça, c'est pas de calcul, c'est la réalité.
Antoine,
mobiliser demain et après-demain nos employés.
Absolument.
Vous anticipez toutes mes questions, puisque la prochaine...
Il est très très bon, Thierry.
Justement, sur la marque employeur, et par un angle, on assiste à quand même une hyper-médiatisation, une hyper-communication politique sur les fameuses licornes. Donc, ces startups qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros.
Oui.
Frénétiquement, on les connaît et on apprend à les découvrir. Sur le segment des ETI, qui est pourtant un impact considérable sur l'emploi, sur la recherche, sur le rayonnement de la France, sur les dépenses... Comment vous vous situez par rapport à ça? Comment vous vous rendez attirant? Est-ce que ce déséquilibre, pour vous, il est justifié?
Alors, d'abord, je pense qu'il y a une réalité, c'est que ETI, c'est un terme statistique, au départ, qui n'a même pas de synonyme européen. Et ça a été très très longtemps l'angle mort des gouvernements, politique économique des gouvernements. Je crois qu'on doit prendre en charge nous-mêmes. Alors, il existe des organisations, le METI, les clubs ETI.
Ils font du très bon travail.
Et donc, ils font un très bon travail, parce que je pense que là, dans ces cas-là, il faut travailler en groupe, en meute, comme on dit. Mmh. Et en même temps, je crois qu'il faut défendre nos spécificités. Les ETI sont en général des sociétés qui ont une certaine assise, qui sont dans le long terme et qui sont aussi très agiles et qui ont une capacité de décision proche. Donc, on a les spécificités qui permettent d'attirer des talents, mais il faut faire l'effort aussi d'aller vers ces talents, se faire connaître. Et c'est un travail qui nous appartient.
Thierry, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI ou joueur de tennis ?
Les deux sont très différents. Si j'avais pu faire les deux en même temps, j'aurais adoré. J'ai pas pu faire les deux en même temps, donc je suis resté.
Vous êtes classé combien en tennis ?
Alors, je suis encore 30.
Ah ben, c'est pas mal.
Je fais de temps en temps les tournois. J'adore le tennis. Ouais. Et j'ai un joueur dont je rêve en termes d'exemple parce qu'il a les frappes chirurgicales.
Federer.
Sans jeu de mots, Federer.
Exactement.
Alors, la frappe chirurgicale.
Dites-nous, vous êtes un professionnel aussi du tennis. Le prochain Français qui va gagner Roland Garros, est-ce qu'il est né ?
Peut-être.
Vous avez un doute, vous.
Peut-être. Aussi. Non, peut-être, mais très certainement d'ailleurs, mais on ne connaît pas encore, donc lui donnons sa chance.
Alors, avec des beaux-parents bordelais, forcément, côté vin, vous êtes obligé d'aimer le Bordeaux ?
En partie. Forcément, parce que là, je créerais les problèmes de famille que j'ai pas envie de créer. Donc, je me suis plongé dans le bordelais. Mais il n'y a pas que. Je pense que je voyage beaucoup. J'ai toujours adoré voyager. Et le voyage est une des façons aussi de découvrir des vins différents. Le Bordeaux, oui, mais il n'y a pas que le Bordeaux.
Et pour terminer, vous soutenez à titre perso ou via l'entreprise des causes caritatives ?
Oui, absolument. Absolument. On a un partenariat particulier en France avec la chaîne de l'Espoir. Et là, je pense qu'il y a l'élément sur l'Ukraine qui est un événement majeur. Et on est dans une démarche de pouvoir soutenir à travers des dons de matériel chirurgicaux à travers les organismes spécialisés en France, avec la chaîne de l'Espoir, mais aussi une initiative en Thaïlande où on soutient un orphelinat, en Inde où on soutient les plus défavorisés. Donc, on a aussi cet engagement. Mais là, ça fait partie de nos valeurs et on choisit des partenaires en lesquels on a confiance et sur lesquels on fait des actions ou en matériel de don ou de temps aussi, parce que c'est beaucoup de temps aussi de notre personnel qui consacre du temps à ces causes.
Merci à vous Thierry, merci également à vous Antoine et Arnaud. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.